Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles du répertoire. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose que nous n'avons jamais abordé. Pourtant, il s'agit d'une esthétique que j'affectionne particulièrement, le baroque, vous le savez. Mais dans un pays tout à fait particulier qu'on n'a pas l'habitude de traiter dans Point d'orgue, il s'agit de l'Espagne. Or, il s'agit d'un univers à part entière, vous allez vite vous en rendre compte. Alors attachez vos ceintures et nous partons pour l'Espagne du siècle d'or, cette Espagne des 16e, 17e siècles, qui domine alors, il faut bien le rappeler, une immense partie du monde, depuis les Amériques jusqu'aux Flandres italiennes. C'est une Espagne puissante, profondément catholique, marquée par une forme de mystique, celle de la contre-réforme, mais aussi par un goût très fort du théâtre, de la couleur et du contraste. Là aussi, vous allez vite vous en rendre compte. Et c'est une civilisation, la civilisation espagnole, où la musique est partout. Dans les cathédrales immenses de Tolède ou de Séville, si vous n'avez pas eu la chance de les visiter, courez-y. Ou dans les monastères royaux, comme l'Escurial, dans les processions de la Semaine Sainte, dans les palais, mais aussi dans les rues et dans les théâtres populaires, vous avez de la musique. Et cette musique espagnole possède une personnalité immédiatement reconnaissable. En fait, elle n'a pas beaucoup changé avec aujourd'hui et vous allez pouvoir peut-être reconnaître quelques petites touches parfois de flamenco. Elle est à la fois austère et brûlante, très spirituelle mais profondément charnelle aussi. Et elle aime les oppositions soudaines, l'ombre et la lumière, le recueillement et l'exubérance, la pénitence et une forme presque d'ivresse sonore. Et on y entend des instruments qui sont typiquement ibériques, la harpe espagnole, la guitare baroque, les percussions et bien sûr ces voix très expressives, très incarnées, qui cherchent moins la pureté abstraite que la force du mot et du geste presque, tellement c'est incarné. Alors pour commencer cette émission, nous allons entrer dans cet univers avec un compositeur qui aujourd'hui est encore relativement méconnu du grand public, il s'agit de Juan Hidalgo. Alors Hidalgo fut l'un des grands musiciens de la cour madrilène du XVIIe siècle. Il travaille pour les Habsbourg espagnols et il participe à la naissance du théâtre musical espagnol. On pourrait presque parler d'un ancêtre de l'opéra ibérique. Alors sa musique est typiquement baroque par son goût de l'expression, des affects, du mouvement intérieur, mais elle garde aussi quelque chose de très espagnol, c'est-à-dire une manière directe, presque populaire parfois, de toucher l'auditeur. Alors l'œuvre que nous allons entendre maintenant s'intitule « Ey que mi rior de amor ». Alors je suis désolé pour nos auditeurs qui sont espagnols ou qui parlent espagnol, moi pas un mot, donc pardon pour mon accent. Et il s'agit ici d'un tono humano, c'est-à-dire littéralement un chant humain. C'est donc une œuvre profane, contrairement aux nombreuses pièces religieuses qui sont composées à cette époque. Mais même lorsqu'elle parle d'amour ou de passion terrestre, cette musique, vous allez l'entendre, elle reste profondément marquée par l'atmosphère spirituelle du baroque espagnol. Alors si j'ai choisi cet extrait qui n'est pas de la musique sacrée, donc je fais une petite entorse à ma règle de conduite, c'est tout simplement pour vous mettre dans le bain, pour que vous puissiez vous faire à cette esthétique si particulière, et vous allez l'entendre très vite, vous allez entendre cette guitare baroque, essentielle dans la musique ibérique du XVIIe siècle, et vous allez écouter aussi cette manière très libre de conduire la ligne vocale. Vous avez des petits ornements, des inflexions du texte, une diction tout à fait particulière qui est presque parlée par moments, et en fait, on se retrouve avec toute la rhétorique baroque qui est déjà là. La musique doit pouvoir émouvoir, toucher et bouleverser. Alors, je vous propose d'écouter ici la Capella Real de Catalunya sous la direction du grand Jordi Savall.
Que me río de amor, ay, que me río de amor. Escuche la tienda, escuche la tienda mía, lo que importa es seguir mi opinión. Dícese quien quiere bien, luego la razón gritó, luego solo el que no quiere ni seguir. Ay, que me río de amor,
La délicate expressivité de la musique baroque dans son appareil le plus noble, une musique extraordinaire qui nous permet de nous jeter dans cette esthétique si particulière de la musique baroque ou pré-baroque espagnole. Vous l'entendez, hein, il y a quelque chose de résolument moderne, peut-être parce que les Espagnols n'ont jamais abandonné cette forme d'esthétique, ce côté un petit peu poème récité presque, que nous on va retrouver dans toutes les autres expressions de la musique espagnole. Et c'est pour ça que je vous propose de poursuivre ce voyage musical avec une œuvre tout à fait fascinante de Mateo Flecha l'Ancien qui s'appelle El Fuego. Alors Mateo Flecha appartient encore à la Renaissance espagnole du XVIe siècle, mais son langage, vous allez vite vous en rendre compte, annonce déjà certains excès du baroque. Sa musique est extraordinairement théâtrale, expressive et parfois même presque halluciné. Et ce compositeur est surtout célèbre pour ses ensaladas. Et le mot signifie littéralement salade. Alors qu'est-ce que sont ces salades? Ce sont des œuvres hybrides, foisonnantes, qui mêlent parfois plusieurs langues, des rythmes populaires, des passages sacrés, des effets comiques, des changements brusques d'atmosphère. Bref, c'est une sorte de grand théâtre spirituel et populaire. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on est vraiment dans ce côté, dans la passion du texte que je vous ai exposé avec l'extrait précédent. Et alors, l'interprétation que nous allons entendre est tirée d'un programme tout à fait particulier, imaginé par le chef Simon-Pierre Bestion avec son ensemble, La Tempête. Si vous ne connaissez pas cet ensemble et ce CD, je vous invite vraiment à vous le procurer parce qu'il y a de grandes merveilles. Et ce programme prend appui sur une histoire absolument saisissante. Alors on ne sait pas si elle est mythique ou pas, mais en tout cas, elle a le don de bien se projeter. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit des dernières semaines de l'empereur Charles Quint. Alors à la fin de sa vie, l'empereur s'était retiré au monastère de Yuste en Estrémadure et il est épuisé, malade et hanté par la mort. Et il aurait organisé, selon une tradition rapportée tout de même par des chroniqueurs, une sorte de répétition de ses propres funérailles. Alors la scène a profondément marqué les imaginations européennes. On raconte même que l'empereur aurait assisté à une messe des morts en présence de son propre catafalque et peut-être même allongé dans son futur cercueil. Alors bien sûr, le récit a ensuite été amplifié au fil des siècles, notamment au XVIIIe siècle, puis par Alexandre Dumas, qui y voyait une sorte de théâtre macabre impérial. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Charles Quint mourut réellement quelques semaines plus tard, le 21 septembre 1558. Et donc c'est à partir de cette matière historique et légendaire que Simon-Pierre Bestion imagine une sorte de requiem rêvé par l'empereur. C'est tout à fait ce qu'il aurait pu vouloir entendre au seuil de la mort. Et c'est au cœur de ce parcours qu'on retrouve cette fameuse musique El Fuego. Alors le feu dont parle Mateo Flecha est ici celui du péché, du désordre intérieur et finalement de la damnation, un feu qu'il faut combattre par la pénitence et par la conversion. Mais c'est également une œuvre immense, un grand spectacle sonore. Les voix surgissent, se répondent, s'affrontent parfois, et les climats changent sans cesse. C'est ce que je vous disais au début avec ces fameuses salades. Il y a des moments de terreur, puis des passages de recueillement, et des élans presque populaires, et on entend toute la violence spirituelle de l'Espagne du siècle d'or. Et finalement, cette musique évoque d'ailleurs les grands peintres espagnols du baroque, les visions sombres et fulgurantes de Ribera ou de Valdés Leal, ces tableaux où la splendeur côtoie constamment la mort. Alors l'interprétation de La Tempête pousse cette œuvre à son incandescence maximale, tout semble porter au rouge exacerbé, presque fiévreux. Nous allons donc maintenant écouter El Fuego de Mateo Flecha, interprété par l'ensemble La Tempête, sous la direction très inspirée de Simon-Pierre Bestion.
Donde las hay, donde las hay, donde las hay.
Et après cette fresque vocale saisissante, il faut maintenant évoquer un autre monument du baroque espagnol, l'orgue. Alors l'Espagne a développé une tradition organistique absolument unique en Europe. Dès qu'on entre dans une grande cathédrale espagnole, Tolède, Salamanque, Séville ou Valence, on est frappé par la présence visuelle des orgues, des gigantesques buffets dorés suspendus au-dessus des stalles, presque comme des palais sonores. Mais ce qui rend surtout l'orgue espagnol immédiatement identifiable, ce sont ces fameuses trompettes horizontales appelées trompettes en chamade. Alors il y en a partout ailleurs, mais ça tient une place tout à fait particulière et vous allez l'entendre. Alors contrairement aux trompettes d'orgue traditionnelles, verticales et cachées dans le buffet, celles-ci sont projetées vers la nef. Le son jaillit littéralement dans l'espace avec une puissance éclatante, presque militaire ou cérémonielle, et ce qui nous fait dire que l'orgue espagnol n'est pas un instrument en demi-teinte, loin de là, il cherche l'éclat, la lumière, le contraste spectaculaire, là où l'orgue français classique privilégie souvent l'équilibre et la danse. Et le plus grand nom de cette école d'orgue est sans doute Juan Bautista Cabanilles, qui fut organiste à la cathédrale de Valence au XVIIe siècle, et on le surnomme parfois le Bach espagnol, même si sa musique est beaucoup plus libre, beaucoup plus fantasque, plus imprévisible que celle du cantor de Leipzig. Alors chez lui, l'écriture semble constamment improvisée, inventée, et elle est comme si elle voulait explorer les couleurs de l'instrument. Alors sa musique alterne des passages méditatifs, des grandes architectures contrapuntiques et des explosions sonores qui sont spectaculaires. Alors l'œuvre que nous allons entendre est un passacalès du 8e ton, et cette passacalès repose sur une basse obstinée répétée continuellement, au-dessus de laquelle le compositeur cherche des variations de plus en plus riches. C'est une forme très caractéristique du baroque européen, bien sûr, Bach l'a lui-même fait dans sa fameuse passacaille en ut mineur. Alors écoutez la manière dont la musique progresse par vagues successives, presque comme une improvisation monumentale, et écoutez aussi les couleurs de l'orgue ibérique, ses hanches éclatantes, les jeux de dialogue, cette lumière sonore très particulière. Et à travers cet orgue, c'est toute l'Espagne baroque qui réapparaît, l'Espagne des cathédrales gigantesques, de ses cérémonies fastueuses, des processions, mais aussi de la ferveur mystique. Ici, nous allons entendre l'organiste Ton Rejmartz.
Thank you.
langage fascinant de l'expressivité espagnole, ici interprété sur ces fameux orgues qui laissent transparaître tout cet éclat, toute cette pompe et cette vitalité qui n'existe presque que chez eux. Évidemment, tous les autres mouvements baroques, qu'ils soient français avec cette forme de danse ou les formes opératiques qui ont cette vitalité, sont extrêmement différents de ce qui a été proposé par les compositeurs espagnols. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire découvrir ce type de musique-là. Vous étiez donc à l'écoute de Point d'Orgue consacré aujourd'hui au baroque espagnol avec les musiques de Juan Hidalgo, Mateo Flecha l'Ancien et Juan Bautista Cabanilles. Je vous invite à découvrir toute leur musique puisque nous avons entendu une Espagne musicale profondément singulière où la mystique, le théâtre, la couleur et le sentiment de la mort se mêlent dans une même intensité expressive. Voilà, j'espère que ce voyage vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point d'Orgue. D'ici là, portez-vous bien.